Ok, on va lire Luc, chapitre 12, à partir de verset 54. Voilà, c'est Jésus qui parle à la foule. Il disait encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. » Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Et vous, ça ne change pas beaucoup de la météo aujourd'hui. Hein. Ils avaient prévu un vent du sud, là, un vent du Sahara, et les températures sont montées. Voilà, donc la météo déjà existait au temps de Jésus. Voyez. Hypocrite. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous, ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'agent et que l'agent ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras point, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Et donc Jésus, oui, il est sur un terrain voilà, de la vie quotidienne. C'est pas, ça ne vole pas à des kilomètres dans les sphères célestes, mais ça fait partie justement de cette sagesse dont je parlais j'ai évoqué tout à l'heure dans Proverbe 3. Cette sagesse qui fait que voilà, il faut parfois être simple et réaliste. Vous voyez là, il dit voilà, si tu as quelqu'un qui te veut quelque chose, bah, mets-toi d'accord avec lui parce que s'il va vers le juge, tu le retrouves en prison. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie au pardon, ça renvoie voilà à toutes ces notions, vous voyez, ou voilà de rancune que nous devons remettre, etc. Voilà tout le royaume de Dieu, hein, tous les enseignements du royaume. Pour que nous puissions vivre dans la paix. C'est vrai que dans ce monde, en attendant le retour de Jésus, il y aura toujours des difficultés, des problèmes, des guerres, des pandémies et autres. Il paraît qu'il y a une pandémie par siècle. Bon, peut-être qu'on l'a eu, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours des soucis. Mais le Seigneur est là. Et il nous corrige. Alors ce matin, je voudrais continuer une réflexion sur le pourquoi de cette pandémie. Jusqu'à présent, je ne me suis pas exprimé là-dessus depuis le début de la pandémie. Mais je suis un peu plus mûr dans mes réflexions pour pas tomber dans le complotisme qui est trop facile. Hein. Voilà, c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les Américains. C'est voilà, là chacun accuse tout le monde. En fait, non. Ce qu'il faut, c'est comme le dit Jésus, il faut discerner les temps. Discerner les temps. Oui. De la même manière que nous devons discerner pour nous-mêmes, comme l'histoire du juge, hein, quand on est avec quelqu'un, bah, se mettre d'accord, justement, pour éviter que ça aille pire, etc. Eh bien, dans le discernement de la pandémie, il faut aussi voir qu'au niveau mondial, au niveau général, au niveau de la société, il y a aussi des choses à discerner. Hein. Dans ces messages, en tout cas dans celui de ce matin aussi, je ne cherche pas à provoquer de la culpabilité chez personne, hein, mais simplement à développer notre vigilance pour discerner les temps et de voir le sens de l'histoire, le sens des choses. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, mais c'est enregistré, j'avais parlé de la perte de l'autorité. C'est un des éléments qui est assez remarquable dans ce temps que nous vivons, où le coronavirus, en dehors de l'aspect sanitaire, hein, a provoqué une perte de l'autorité. Alors c'est quoi l'autorité? Bah, vous savez, on a changé de Premier ministre, hein, c'est Jean Castex. Et avant c'était Édouard Philippe. L'autorité est la même. Les gens ont changé. Donc l'officier qui officie dans le poste de l'office de Premier ministre a changé, mais l'office est resté le même. C'est-à-dire l'autorité, c'est le poste de Premier ministre. Voyez. Donc les gens changent, mais l'autorité est la même. Donc l'autorité, c'est plutôt un office. Il faut voir ça comme un office. Hein. Voyez-vous, l'office pastoral est un office dans la mesure où il est désigné sous ce terme. Hein. Il y a d'autres églises qui ont des offices d'anciens, des offices de conseillers, enfin peu importe. Mais c'est une autorité hein, qui préside à diriger l'église, etc. Et que ce soit l'autorité dans l'église ou l'autorité dans le monde, il y a une perte d'autorité. Alors, il y a des raisons, hein, des raisons parce qu'ils se sont trompés, parce que ils ont menti, parce que voilà, il n'y a pas de masque, ils ont détruit les masques. Enfin bref, vous connaissez toutes ces histoires. Hein. Mais l'idée, c'est pas ça. Vous voyez, quand vous voyez le nuage qui arrive, Jésus dit, vous dites qu'il va pleuvoir. Ce qui est important, c'est la pluie, c'est pas le nuage, c'est la conséquence. Et là, c'est pareil. La perte d'autorité, il faut voir la conséquence. C'est quoi la conséquence de la perte d'autorité? Pourquoi il y a cette perte d'autorité? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est... Non, c'est pas le hasard. C'est parce que derrière l'histoire, il y en a un qui manipule l'histoire. Hein. Jésus, lui, tient l'histoire dans sa main, mais il y en a un autre, c'est le prince de ce monde, qui, lui, conduit l'histoire aussi à sa manière, parce qu'il veut contrer l'histoire de Dieu. Et la Bible nous révèle, il n'y a pas besoin de grande théologie pour connaître l'histoire qui nous est racontée dans la Bible, c'est que avant le venu de Jésus, il y aura un antichrist. C'est quelqu'un qui s'opposera à Christ. Parce que l'ennemi espère toujours gagner. Vous voyez, il va perdre, mais il espère toujours gagner, comme à la croix. Il espérait faire tuer Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose, mais il ne comprend pas l'amour. Hein. L'ennemi ne comprend pas l'amour, il a tout sauf amour. Donc il a son propre paradigme, comme on dit, son propre façon de raisonner. Et il pensait qu'en faisant tuer Jésus, il gagnerait. Et en fait, il a perdu, parce que Jésus était venu non pas en vainqueur, il était venu en serviteur. Il était venu servir, il était venu donner sa vie. Voyez. Donc quand on se trompe d'interprétation de l'histoire, on est à côté de la plaque, et on peut faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Et c'est ce que fait l'ennemi. Il fait toujours l'inverse. Hein. Mais en plus, on le sait qu'il va faire l'inverse. Donc, attention. Alors voilà, je termine juste en vous renvoyant cette prédication sur la perte d'autorité. Et en fait, il faut que les autorités établies puissent perdre leur pouvoir, de manière à ce que les gens aspirent à une autre autorité qui sera mondiale, qui sera l'antichrist. Donc, on est en préparation. On est dans cette histoire, si vous voulez, sans jeter de pronostics sur le temps, l'année, etc. On n'en est pas là, mais on sait que le sens, il est là. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre élément qui est aussi une perte, qui est la perte de l'Église qui n'est plus essentielle. Alors elle est ou essentiel ou pas essentiel. L'Église non essentielle, ce serait le titre du message. Alors, non essentiel pour la société, mais aussi non essentiel pour les chrétiens. Il y a 50 ans, moi, il y a 50 ans, je fréquentais l'Église catholique qui était remplie, près de 1000 personnes à chaque messe le dimanche. Eh bien, à cette époque-là, l'Église était créditée d'une autorité reconnue en interne et dans la société. Je me rappelle quand De Gaulle avait passé, vous savez, en Alsace, De Gaulle, c'est quelqu'un, hein. Ils ont voté 98% pour lui. Hein. Ah oui, et ça se comprend. Hein. Quand on est sauvé des Allemands comme ça, dans une province où on était envoyé sur le front russe, comme mes oncles, ou sur le front américain, et on est pris pour des Américains, et puis voilà. Donc c'est terrible comme situation. Eh bien, quand De Gaulle était venu, ben, il y avait toutes les autorités, y compris ecclésiastiques. Il y avait le prêtre, il y avait le rabbin, il y avait le pasteur protestant, etc. Vous voyez, l'Église était essentielle, elle était reconnue dans la société, hein, comme étant une autorité spirituelle, mais aussi morale. Elle donnait son avis sur l'aspect moral des choses. Hein. Là, on vient de l'Assemblée de voter la PMA, vous voyez, voilà, l'Église n'a plus son mot à dire, hein, même si on consulte et encore. Voilà, vous voyez, les choses ont changé, vous êtes bien d'accord avec moi. En 50 ans, les choses ont changé dramatiquement. L'Église avait une autorité morale pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, qui est juste, comme le dit Jésus ici. Vous savez plus discerner ce qui est juste, ce qui est mauvais. Eh bien, à qui la faute ? Alors, si on veut chercher la faute, c'est à qui ? Eh bien, je pense que l'Église a été incapable de tenir un discours rationnel, rationnel au sens de la raison de Dieu, de rationalisme, de rationnel, cohérent avec ses propres principes évangéliques. Regardez la pédophilie dans l'Église catholique, hein, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez eh bien, le résultat dramatique de cette perte, et ça c'est un interne, il ne faut pas chercher, des ennemis à l'extérieur, hein. Ça s'est passé à l'intérieur. Okay. Manque de responsabilité aussi de la hiérarchie pour dénoncer, enfin pour toutes sortes de raisons. Il y a des procès maintenant là-dessus, hein, en grand nombre. Vous voyez, ne cherchons pas toujours des ennemis à l'extérieur. Nous aussi, nous sommes responsables. Et pourquoi Barbarin a perdu son poste ? Parce qu'il n'a pas assuré la responsabilité, même si on peut comprendre qu'à l'époque c'était difficile. Mais voilà, en même temps, il faut répondre de ses actes. Et répondre de ses actes, c'est être responsable. Et je pense que l'Église n'a pas été à la hauteur de sa responsabilité. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous le sommes ? Je crois que c'est ça. Mon message, c'est de dire aujourd'hui nous, hein, sans regarder ni à droite ni à gauche, est-ce que moi je suis responsable de ce que c'est que l'Église ? Est-ce qu'on comprend au moins ce que c'est que l'Église ? En ce moment, dans les réunions de prière, je vous invite à venir sur Zoom tous les mercredis, eh bien, on a évoqué ça. Avec Marie-France, qui d'ailleurs pourrait très bien le dire à ma place, hein, elle le dit très bien, sur Acte 2, 42, hein, ils se réunissaient, etc. Voilà. Est-ce que nous, on est responsable de cette perte de l'essentiel ou pas ? Voilà. Alors, cette réflexion est d'autant plus grave qu'elle est constatée dans tous les pays, hein, donc c'est pas que la France, et en particulier aux États-Unis. Alors, je vais vous lire une réflexion, hein, qui m'a, voilà, j'ai pas voulu refaire un message de cette nature, puisqu'il est très bien fait, je vous le lirai, de quelqu'un, c'est un ancien d'une église de Californie. Donc, Californie, c'est aux États-Unis. Et donc, c'est d'autant plus grave, cette réflexion qui est très juste, très pertinente, que c'est dans un pays où la liberté de rassemblement de l'Église est inscrite dans la Constitution. C'est pas comme en France. En France, depuis 1901, 1905, enfin, séparation de l'Église et de l'État, la partie Église, la partie foi est dans le domaine privé. Il n'a rien à faire dans le domaine public. Ce n'était pas le cas avant. Alors qu'aux États-Unis, ça fait partie de la vie publique. Vous pouvez, en tant qu'Église, voilà, et aujourd'hui, il y a tout un tas de chrétiens qui sont à la Maison Blanche, qui prient tous les matins à la Maison Blanche. Il y a un mélange entre la société civile et la société religieuse. Alors qu'en France, eh bien, ce n'est plus le cas depuis début du siècle dernier. Alors, ce que je vais lire, qui bien sûr est dans le contexte américain, s'adresse aussi à ce que nous avons vécu. Hein. Et je vous livre cette réflexion parce que je crois qu'elle s'applique totalement à nous. Alors, il y a trois formes de questions qui vont être évoquées dans cette réflexion. Un, l'Église est-elle non essentielle ? Deuxièmement, la foi est-elle un bien de consommation privée ? Privatif. Et troisièmement, le monde remarquerait-il si les églises restaient fermées ? Et on peut terminer par est-ce que Aubergenville, le monde d'Aubergenville, la politique, enfin, les autorités, maires et autres, remarquerait-il quelque chose si nous on restait fermés, si l'église restait fermée ? Oui, ça c'est une question. Donc c'est une forme de question. Alors je vous lis cette réflexion de cet ancien de l'Église Californie. Depuis que le monde a été mis en quarantaine par la Covid-19, les termes essentiels et non essentiels occupent une place importante dans notre discours. Les entreprises et les services jugés essentiels ont été maintenus ouverts. Supermarchés, quincailleries, stations d'essence, animalerie, laverie automatique, etc. Alors je dis, c'est contexte américain, c'est peut-être un peu différent chez nous, mais voilà, vous voyez un peu comment les États-Unis et en Californie c'était géré. Beaucoup d'autres, jugés non essentiels, ont été fermés jusqu'à nouvel ordre. Gymnase, cinéma, casino, magasins de détail, stades de sport, salles de concert, et les églises tombaient dans cette dernière catégorie. La grande majorité des églises ont annulé leur culte et les activités selon le fait que les grands rassemblements de personnes présentent des risques élevés de transmission du virus. Et on le sait, chez nous, c'était dramatique avec l'église de Mulhouse. La plupart ont ensuite attendu le feu vert du gouvernement pour recommencer à se réunir, pour ce qui nous concerne depuis début juin. Bien que le raisonnement de la fermeture des églises soit logique, pour diverses raisons, les rassemblements des églises présentent un risque accru de transmission du virus. Que faisons-nous du fait que peu de personnes ont contesté le fait que les rassemblements d'églises sont considérés comme non essentiels? Je ne parle pas d'ici strictement de la sagesse des stratégies de confinement dues au Covid-19, mais plus largement de la valeur perçue des églises locales dans la société. Même si nous respectons les directives du gouvernement et nous réfléchissons prudemment à la réouverture des églises, il vaut la peine de considérer comment le terme non essentiel, appliqué de manière désinvolte, diminue la stature et la place de l'église dans le monde. Voilà, donc la première réflexion, l'église est une bonne chose, mais non essentielle. Lorsqu'il a été annoncé que les rassemblements religieux ne reprendraient qu'en dernier lieu du plan de réouverture, j'étais triste, non pas parce que je contestait le risque élevé que de tels rassemblements représentent, mais parce que cela soulignait à quel point la pratique religieuse est devenue, prioritaire dans la culture, peu prioritaire dans la culture occidentale contemporaine. Les églises sont dans la même catégorie de réouverture que les salons de manicure, les salles de sport, les cinémas, des luxes, des agréments, dont on peut vraisemblablement se passer pendant une saison prolongée. Les églises sont assimilées à des lieux de divertissement, ce qui est une bonne chose pour les personnes qui aiment ce genre de choses, mais qui n'est en aucun cas essentiel à l'épanouissement de l'homme et de la société. Et ne valent certainement pas de prendre des risques pour la santé. Il est révélateur que notre société ait décidé que nous ne pouvons pas vivre sans les éléments essentiels comme les blanchisseries, les vendeurs de journaux, les bureaux de tabac, mais que nous pouvons vivre sans les rassemblements physiques ou présentiels dans les églises. Il est révélateur que notre société ait décidé que nous ne pouvions pas nous passer de l'essentiel comme les magasins d'alcool, les dispensaires de marijuana, les terrains de golf, mais alors ça c'est une petite... petite touche, voilà, mais que nous pouvions vivre sans se réunir physiquement à l'église. Alors, réalisons-nous à quel point cela est révolutionnaire dans le schéma de l'histoire. Et vous, c'est ça, le sens de ce que Jésus disait, le sens de l'histoire. Il y a quelques décennies à peine, le rôle de l'église dans la société était si central dans la vie quotidienne, si fondamental pour le bien-être des individus et des communautés, qu'il aurait été impensable de reléguer les rassemblements religieux à un statut non essentiel. Mais vous, c'est la classification essentielle, non essentielle. Le fait que nous en soyons venus à considérer les rassemblements religieux comme non essentiels témoigne de dynamiques sociétales que la pandémie n'a pas créées, mais qu'elle a révélées. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été révélées et qui étaient présentes déjà. Simplement, vous voyez, il y a des stades où, d'un seul coup, il y a des révélations de choses qui sont souterraines et qui apparaissent. Ces dynamiques n'ont pas été imposées par un quelconque croque-mitaine extérieur, anti-chrétien. Dans de nombreux cas, il s'agit de dynamiques perpétuées par les chrétiens eux-mêmes. Alors ça c'est la première réflexion sur l'Église non essentielle. La deuxième réflexion, c'est la foi. en tant que bien de consommation est maintenant privatisé. Nous ne devrions pas être surpris que le fait d'aller à l'église soit perçu comme une question de préférence superflue, au même titre que les habitudes de consommation comme le cinéma, la pratique sportive. Depuis des décennies maintenant, nous concevons l'église non pas tant comme quelque chose devant laquelle nous sommes responsables, nous devons répondre de nos actes, et par laquelle notre identité chrétienne est réalisée, mais comme une amélioration facultative de notre propre cheminement spirituel. Et ça rejoint totalement, je digresse par rapport au texte, pour montrer que le Nouvel Âge aujourd'hui propose justement ces alternatives spirituelles où vous développez votre potentiel spirituel, etc. Et c'est pas étonnant que, voilà, que ce mouvement a déjà commencé il y a quelques années, il fait son travail. Alors dans Éphésiens chapitre 3, versets 7 à 12, on va le lire. On parle de l'Ecclésia, hein, qui est donc été créée, fondée par Jésus, hein, l'Église, puisque notre réflexion sur c'est l'Église, ce qu'elle est essentielle et pas essentielle. Donc Éphésiens chapitre 3, verset 7. Dont je suis devenu, donc on parle du corps de l'Église, hein, forme un même corps, participe à la même promesse en Jésus-Christ, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Et voilà, il y a une dimension que peut-être beaucoup de chrétiens oublient, que c'est au travers de l'Église, et pas l'Église virtuelle, l'Église locale, qui est en même temps universelle et en même temps locale, et en même temps qui représente, qui utilise les dons, l'autorité que Dieu donne dans les églises pour conduire les églises. Eh bien, cette église, elle manifeste dans les lieux célestes, spirituellement, aux autorités et aux dominations, donc aux anges du deuxième ciel, ceux qui sont dirigés directement par Satan, eh bien, elle manifeste la sagesse de Dieu. Voyez-vous, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont des réalités bibliques. Laissez-vous interpeller par ces versets pour comprendre ce que c'est que l'Église. Je sais que le Garvey a été créé pour réfléchir à ce que c'est que l'Église. Moi, j'attends un peu la synthèse pour voir si tous ces éléments y sont, vous voyez. Parce que voilà, c'est peut-être le reflet de notre société que voilà, l'Église, c'est non essentiel, etc. Là, c'est présenté par Paul lui-même comme l'élément centrale que Dieu a à ses dispositions pour montrer sa sagesse à ses dominations, ses puissances. Alors même si l'Écriture montre clairement que l'Ecclésia occupe une place centrale dans le plan éternel de Dieu, notre façon de voir l'Église, qui est anémique, hein, relègue souvent l'Église à une place décidément non essentielle. Si l'Église n'est qu'une partie agréable de notre voyage spirituel autoproclamé, mais seulement dans la mesure où elle renforce plutôt que de miner notre identité individualiste, alors bien sûr, nous pouvons nous en passer pendant de longues périodes. L'Église n'est pas essentielle, supposons-nous, car le christianisme est tout aussi facile à pratiquer seul à la maison. Donnez-moi une Bible, de la musique, de la louange inspirante, quelques podcasts spirituels, et c'est bon. Avons-nous vraiment besoin de l'Église pour être en bonne santé spirituelle. Alors, vous savez, comme dans politique, il y a la gauche et la droite, les conservateurs, les progressistes, chrétiens, qui ont tendance à avoir cette vision de la foi, de la spiritualité personnelle privatisée. Ceci étant pour des raisons différentes. L'accent est sur le mot personnel, parce qu'il valorise l'auto-souveraineté et le pouvoir de l'individu de déterminer lui-même ce qu'il en est de sa foi et de l'expression de sa foi. On est en plein humanisme, hein, Oui, l'humanisme. Et quelqu'un m'a dit récemment que voilà, quand il y a une église, il sent l'humanisme. Hein. C'est vrai que on est quand même le pays qui a fondé l'humanisme. Et c'est pas étonnant que ce soit très fort chez nous. Parce que chacun détermine pour soi. Voyez-vous, la Bible, bon, voilà, je viens de vous lire un verset, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, est-ce qu'on l'applique ou est-ce que voilà, on a notre idée sur la foi et l'expression de la foi. Alors les progressistes mettent l'accent sur la privatisation, parce qu'ils préfèrent que la religion soit exclue de la vie publique et de la vie politique. En effet, en matière de foi, plus on est chez soi, on est en sécurité chez soi. Voyez, c'est une politique que certains progressistes aimeraient voir adoptée de façon permanente. Hein, que voilà, et c'est ce qui s'est passé en France, avec la loi où l'Église est en partie privée. Et aux États-Unis, voilà, il y a aussi cette tendance. Hein, sauf que chez nous, il a été institué depuis 100 ans. Mais lorsque la foi est reléguée à un domaine privatisé, personnel, consumériste, tout le monde y perd. La spiritualité personnelle devient un gâchis incohérent lorsqu'elle a des liens faibles avec une communauté ecclésiale solide. La société dans son ensemble souffre lorsque les églises locales ne fonctionnent pas pleinement. Alors ça c'est surtout vrai aux États-Unis, parce que chez nous c'est plutôt les catholiques, mais ils le font ça, les catholiques. Entre autres choses, les églises répondent à des besoins critiques dans leur communauté. Banque alimentaire, aide aux sans-abri, soutien éducatif, soins orphelins, conseils, entre autres, etc., conjugaux ou autres. Hein, vous voyez, le secours catholique, vous avez... Bon, c'est assuré par les catholiques, mais pas par nous, parce qu'on est des tardifs hein, dans le fait de nous avoir acceptés comme Église. Mais aux États-Unis, vous voyez, moi je voyais, quand j'étais aux États-Unis, sur l'autoroute, je voyais des étiquettes avec des noms. Et j'ai dit à Michel, ben voilà, tous les kilomètres, il y a des étiquettes, c'est quoi? Et on s'est renseigné, et en fait, c'est des particuliers qui entretiennent l'autoroute, cette partie d'autoroute. Donc ils viennent avec leur voiture, ils enlèvent les papiers, etc. Vous imaginez ça en France? Déjà, pour la sécurité, ce serait interdit. Voilà. Donc vous voyez, l'aspect privatif est très fort. Hein, voilà. Les églises, nous, on s'arrêtait sur un parking, voilà, sur une aire d'autoroute en plein été. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui nous offrent le café, les petits gâteaux, les machins, etc. Et tiens, avant d'aller aux toilettes, c'est sympa, quoi. Et c'était des chrétiens, c'était des églises qui venaient, qui offraient, vous voyez, leur hospitalité, etc. Sans forcément nous tendre des Bibles, des Évangiles, hein, mais voilà, c'est l'amour, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça existe aux États-Unis, et c'est fait par les églises. Alors, troisième et dernière réflexion, le monde remarquerait-il si les églises ne rouvraient jamais? Bien sûr, je ne suggère pas que les églises doivent défier les directives du gouvernement, se considérant comme essentielles, même si les autorités disent le contraire. Cela ne ferait qu'attiser des guerres culturelles existantes de manière inutile. De plus, ne devrions pas montrer que nous sommes essentiels, plutôt que simplement le dire que nous le sommes. Néanmoins, cette pandémie et le statut non essentiel de l'Église en son sein devraient être un signal d'alarme, un signe, comme le dit Jésus, pour nous. Les Églises manquent-elles au monde lorsqu'elles sont enlevées? Je ne parle pas de l'enlèvement simplement qui interviendra quand Jésus va revenir, mais enlevées au sens, voilà, n'existe plus dans la société. Les chrétiens eux-mêmes ressentent-ils un trou béant dans leur foi lorsque l'Église locale manque? Ça, par contre, ça nous interpelle. Reconnaissent-ils que l'Ecclésia est le projet de Dieu? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'aller au calvaire, hein, d'ailleurs, après avoir institué l'Église, tout de suite, Pierre a dit « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas », et Jésus a dû dire « Arrière de moi, Satan », à Pierre. Alors que quelques instants avant, il l'avait établi comme fondateur de l'Église. Voyez. Or, à ce moment-là, Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce rocher que je suis, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il a établi l'Église. Il n'a pas établi le chrétien. Il a établi l'Église. Voyons, est-ce que cette absence de l'Église est-elle un trou béant chez le chrétien ou pas? Reconnaissent-ils que l'Église est le projet de Dieu et que c'est une partie centrale de la mission du chrétien? Comment l'Église peut-elle reprendre une position dans la société quand elle est perçue par tous, croyants ou non-croyants, comme n'étant plus essentielle? Alors en conclusion, j'espère qu'au moins cette saison nous rappelle le don glorieux et incomparable qu'est le corps de Christ rassemblé. Comme l'écrivait un certain écrivain, Megan Hill, que je ne connais pas, dans son livre « Place to Belong », donc un lieu auquel appartenir, dans le rassemblement sans prétention de l'église locale, c'est vrai qu'il n'y a pas de prétention pour nous à être une église locale toute petite dans cette région, mais nous sommes en communion avec le Christ lui-même. Est-ce que vous réalisez que ce matin, nous sommes en communion avec le Christ? C'est ça la réalité dans laquelle il faut se projeter et qui est la foi. Eh bien, chers chrétiens, nous n'avons pas de plus grand privilège que l'Église. J'espère également que cette saison nous montre que la spiritualité privatisée et consumériste ne suffit pas, ni pour les individus, ni pour la communauté. Nous avons besoin de plus qu'une foi, moi et Jésus, qui a peu d'influence sur le monde, et qui nous insiste peu à quitter nos quatre murs. Nous avons besoin d'une foi qui s'enracine dans des communautés d'églises locales fortes, qui servent et se multiplient. Le genre de foi qui fait une telle différence dans sa présence tangible que tout le monde remarque et déplore son absence. Rappelons-nous qu'avec 12 disciples, Dieu a bouleversé le monde de l'époque qui était païen. Le paganisme dans lequel bien sûr nous retournons, mais qui était à l'époque extrêmement fort au Moyen-Orient. Et ils ont mis le monde sens dessus-dessous, comme nous dit la parole de Dieu. Sens dessus-dessous. 12 personnes, imaginez. Alors bien sûr, la chambre haute, ils étaient un peu plus nombreux, mais c'était ces 12 disciples qui sont tous allés à la mort, hein, sauf Jean, qui est allé sur l'île de Patmos. Ils ont tous terminé, Pierre crucifié la tête en bas, André crucifié en travers, etc. Simplement, ceux qui ne voulaient pas faire comme Jésus, ils voulaient être serviteurs de Christ. Eh bien, ils ont bouleversé la terre de l'époque. Le fameux... je ne sais plus quel est... J'ai un trou là de l'apôtre en question, qui est allé en Inde. Thomas, je crois, qui est allé en Inde. Et aujourd'hui encore en Inde, il y a là un endroit où cet évangéliste, donc ce disciple de Jésus, a bouleversé tellement cette région de l'Inde qu'aujourd'hui encore, toute cette région est chrétienne et solide dans la foi. Vous voyez, avec très peu de monde, on peut transformer la société par l'évangile. Et ici, au Bergerville, on n'est pratiquement pas connu. J'arrête pas de demander aux différents maires qui passent juste de nous mettre une flèche, un signe qui indique l'église protestante. Évangélique s'il veut, enfin peu importe. Mais que les gens qui cherchent en voiture, ils puissent venir. Ça se fait beaucoup, quoi. À la fin, hein. Pourtant, je vais à la charge. Pourquoi? Parce qu'on ne représente rien. Bon, bien sûr, pas au niveau vote. Bon, enfin, on ne fait pas ça pour les votes, mais on fait simplement pour qu'il y ait une reconnaissance qu'on existe. Donc, vous voyez, du chemin à faire ici. Quand, avec Marie-France, on a commencé les CCY à Orgeval, l'idée, c'était de devenir un fraisier. La vision de Yves Cornas, devenir un fraisier. Vous savez comment ça marche, ça se marcotte, et puis hop, d'un seul coup, il y a des fraises partout, tout seul, hein, voilà. C'était l'idée. Orgeval, toutes les Yvelines, c'est grand, devenir un fraisier. Aujourd'hui, le fraisier n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la vision n'était pas bonne. Ça veut dire qu'il y a du chemin à faire. Et quand on est venu ici à Aubergenville sur la direction de Dieu en 90, Eh bien, moi j'avais encore plus de force que maintenant, hein. J'étais encore jeune à l'époque. On était déterminés à transformer cette ville et cette région. Et je pense qu'il faut que ceux qui nous suivent, les quadras entre autres, il faut qu'ils aient cette détermination. Sinon, vous voyez, l'ennemi a donné des coups de butoir pour freiner cela. Mais voilà, il faut que la prochaine génération relève les manches pour aller plus loin. On ne part pas de zéro. Nous, on partait de zéro. C'est quelque chose. Donc, il y a un bâtiment, il y a des choses extraordinaires qui sont déjà faites. Hein, mais on n'a pas plus loin. Alors je remercie le Seigneur pour Jérôme qui a fait cette tentative de se présenter aux dernières élections. Malheureusement, le maire a perdu. Mais voilà, c'est ça qui est important. C'est non pas faire de la politique, mais c'est d'être présent en tant que chrétien qui est le sel et la lumière. Oui, mon Michel a eu à cœur, bon, elle a fait la grecque, elle voulait être prof d'université, parce qu'elle ne voulait pas prêcher, être dans en dessous. Elle aurait pu, elle a été brillante. Et puis, quand elle a élevé les enfants, eh bien, on est venu la chercher pour devenir adjoint maire. Plusieurs fois, on voulait qu'elle soit maire, mais bon, il a refusé. Mais pendant tout le temps où il était, Il y avait la paix. Il y avait, vous voyez, faisait pas de politique. Bon, c'est une petite ville de 1000 habitants maintenant, 800, 900. Mais la présence d'un chrétien dans les décisions qu'il doit prendre au quotidien ou à la semaine ou à l'année, suivant les cas. Vous voyez, à un moment donné. En même temps qu'on a eu le combat spirituel ici, c'était pas fortuit. Il y a le Nouvel Âge qui a voulu mettre en place, dans le village où était Michel, mettre en place un centre holistique de 60 ou 80, faut pas chipoter sur le nombre, je sais plus, de médecine parallèle. Des médecines qui sont pas reconnues par la sécurité sociale, conditionner les cadres dirigeants de Paris. Ils ont dit toutes les semaines il y aura 800 cadres, des hauts cadres, pas des petits, hein, hauts fonctionnaires et tout ça, qui viendront et qui viendront dans ce centre. Voilà. Pourquoi faire? Ben voilà, c'est des choses spirituelles, d'entrer dans le virtuel, etc. Bon, le fait que Michel, on a constitué un groupe de prière. Un groupe de combat spirituel avec les Bourgognes et autres, etc. Et on a combattu pendant une dizaine d'années, jusqu'au moment où Michel a pu mettre des tampons, refus de permis construire. C'est un tampon physique, hein, refus. Voyez. Le combat spirituel est lié aussi à des choses physiques, dans le monde physique. Hein, voilà. Et ils ont abandonné, ils ont arrêté, et ils n'ont plus jamais revenu, c'est parti. Quoi. Vous voyez, on a des combats à mener en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que sel et lumière, et en tant qu'Église, l'Église qui est établie pour être le présent du royaume de Dieu, parce que Dieu il ne peut résider que des gens dans lesquels il est reçu. Et si nous recevons son royaume, nous devons vivre de son royaume. De son règne. Et je pense que l'Église est essentielle. Il y en a qui le croient ici. L'Église est essentielle. Essentielle pour le royaume. Essentielle parce que Dieu l'a décidé. Essentielle parce que Jésus est mort pour son Église. Le corps de Christ, c'est la suite de ce que Jésus a fait. Nous sommes son corps. Lui, la tête, nous sommes son corps. Et je prie, et je pense qu'on va faire un petit groupe de prière pour demander un réveil. Il faut un réveil. Hein. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que les chrétiens se rendent compte des réalités spirituelles. Hein, parce que nous commençons à dormir avec tous les autres. Que le monde nous considère comme non essentiel, ok. Mais que nous suivions, non. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent résister? Voilà, dans le Tour de Constance. Comment elle s'appelle? Voilà, elle écrivait « Résister ». Nous sommes dans cette situation. Résister. Voyez-vous, la forme de persécution a changé, mais elle est encore plus sournoise, elle est encore plus forte, elle est encore plus insidieuse. Parce qu'il arrive à prendre les chrétiens par toutes sortes de considérations. Alors on discute. Voilà. Alors là, les forums, ça y va. Ok, mais nous, concrètement, est-ce que le POA, l'église d'Aubergenville, les chrétiens que nous sommes, eh bien, nous voulons résister, nous voulons relever la tête et dire non, l'église est essentielle, l'église locale est essentielle parce qu'elle va percer. Percer le voile spirituel qui est là. Et nous allons glorifier le Seigneur. Amen. L'idée, ce n'est pas de nous glorifier, nous, mais glorifier le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière pour que le Seigneur puisse nous diriger dans ce sens. Seigneur, nous te bénissons. Parce que, Seigneur, tu as montré que nous devons voir les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur, le temps où tu es venu, la plupart des juifs de l'époque, des croyants, n'ont pas reconnu le temps et ne t'ont pas reconnu. Seigneur, que cela nous soit préservé et que nous puissions voir le temps dans lequel nous sommes et l'avènement de ton retour, que nous chérissons, certes. Mais Seigneur, en attendant, nous avons une mission et nous voulons la remplir avec ta grâce. Seigneur, aide-nous, aide tous les chrétiens de cette assemblée à le réaliser. Et Seigneur, à venir se rassembler, Seigneur, autour de toi, Seigneur, parce que c'est toi la tête, c'est pas le pasteur, c'est pas personne d'autre que toi, Seigneur, et que autour de ce rassemblement, eh bien, il y ait, Seigneur, des paroles de connaissance, des paroles non prophétiques, des choses, Seigneur, qui reprennent vie, Seigneur, afin que cette Église puisse reprendre, Seigneur, le chemin qu'elle a pris au départ et qui est en train de dévier, Seigneur, à cause de l'assoupissement. Seigneur, donne-nous de nous réveiller notre torpeur pour que nous puissions continuer l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Te prions au nom de Jésus. Amen.